Dans le dictionnaire, l'anarchie, ça veut dire la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je pense que c'est un sentiment, une position affective aussi importante que l'amour, aussi noble que l'amour. Et c'est la solitude, quoi, en définitive. Moi, pour moi, n'est-ce pas? Alors, j'évite d'employer le mot, ce mot-là, parce que les gens, si je dis je suis un anarchiste, ça suppose tout un programme politique. Or, pour moi, l'anarchie, c'est pas la politique. J'ai dit un jour que, remarquez, je parle comme si j'étais un type qui avait dit des choses, non? Je dis ça. J'ai dit un jour que l'anarchie, c'était la formulation politique du désespoir. Voilà. Je crois que c'est une façon, c'est en tout cas pour moi la façon de considérer l'anarchie. C'est une formulation politique du désespoir. Il y a le mot politique et il y a tout de même le mot désespoir, n'est-ce pas? Ce qui, c'est une position dans la négativité, mais c'est pas mal la négativité, dans le moins. Dans le moins, il y a, moi je dis qu'il y a le plus la loi et puis moins la loi. C'est-à-dire la loi, les choses établies, puis l'anti-loi. Vous savez, quand j'ai dit, tout à fait par hasard, c'est une chose qui est venue sous ma plume, comme si ça m'avait été dictée, d'où? Que le désordre, c'était l'ordre, moins le pouvoir. Et c'est bien ça, n'est-ce pas? Le désordre, l'ordre. Ah, c'est extraordinaire. Vous savez, ce qu'il y a de difficile, c'est. Ce qu'il y a d'important pour moi et de tragique, c'est la déception et la certitude, en tout cas, de savoir que les choses changent d'abord, les idées, les pensées, et que nous ne pouvons pas dire aujourd'hui ce que penseront les jeunes qui sont comme nous, peut-être qui pensent comme nous, dans 20 ans. Mais les jeunes de 20 ans, c'est ceux qui naissent aujourd'hui, vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes embrigadés par le système de la vie, qu'ils soient capitalistes ou politiquement capitalistes ou communistes, ça. Tant pis, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, en Italie, moi je suis communiste, je parle avec les communistes. Remarquez que les communistes italiens sont je n'ose pas dire moins communiste que les communistes français, parce que les communistes français sont-ils communistes? Bon.
C'est vrai qu'il y a des gens d'extrême gauche qui, quand ils parlent du Parti communiste français, mettent communiste entre guillemets, vous vous rappelez?
Oui, et puis, on en parle comme ça, mais je ne sais pas, vous êtes de bon avis, probablement. C'est décevant, oui. Et les communistes italiens, il y en a un qui, je reviens à ce que je disais,
Oui.
qui me disait l'autre jour, moi, je suis, il y a 22 ans, quoi. Je suis communiste parce que mi fa comodo, c'est-à-dire parce que ça m'est, je traduis littéralement, ça m'est commode, parce que ça m'arrange. Et je dis, mais de si dans, qui t'es malin comme ça, parce que les gens qui gagnent de l'argent comme ça, c'est des malins, plus malins que d'autres, quoi. Si par exemple, dans 4-5 ans, tu as un truc, tu gagnes de l'argent, ah, mais je serai plus communiste. Alors, vous comprenez, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme ça. Il parle un peu comme ça, pas tout. Enfin, moi, des gens que je vois.
Des nouvelles chansons que vous reprendrez au Palais des Congrès en novembre-décembre
Oui,
prochain.
en tout cas, une qui s'appelle La mort des loups. C'est une chanson que j'ai écrite tout de suite après la mort de Buffet
Et
des
Bontemps.
Pantin. Voilà. Quand j'écris, j'écris comme
Actuellement.
ça. Non, j'écris comme ça parce que c'est devenu une l'appel au fond, et qui est inexplicable, difficilement explicable, parce que je l'ai dit aussi. J'écris souvent, des fois j'attends pas longtemps, hein. Je n'ai pas à chercher, je dis, là, je suis tombé. Mais je mets la machine, et puis ça vient. Et puis, ça, au bout de trois lignes, tac, ça va très vite. Je suis dicté. Il n'y a plus rien, j'étais dicté. Très vraisemblablement. Alors, quelque chose près, quoi. Et pourquoi j'écris, il n'y a plus rien? C'est un truc de circonstance aussi. J'ai pas décidé un jour d'écrire, il n'y a plus rien. J'avais un camarade avec qui je vivais, très copain, qui me rendait des services, qui devait faire un scénario, il avait fait un scénario de film qui s'appelle Sur Saint-François d'Assise. Vu d'une façon moderne, et comme au moment où ce François se fâche avec ses parents, il doit se... Il engueule ses parents. Il leur laisse même ses habits. En disant, tenez, même plus ça peut... Allez vous faire foutre, quoi. Et il me dit, tu peux pas m'écrire quelque chose comme ça? Je dis, oui, peut-être. J'écris un peu rien, quelque chose près. Il me l'a rendu au bout d'une semaine. En me disant, on a changé d'avis, on fait des images. Et je dis, eh bien, moi, je vais faire dans notre champ. Je vais faire dans notre champ.
Voilà. Et la musique suit?
Ah, mais je l'ai fait après.
Toujours?
Ça dépend. Je pense que la musique prime, c'est-à-dire que le musicien fait la musique avant, et le parolier, c'est pour ça qu'on appelle le parolier, il parole la musique, quoi, il met des syllabes sur la musique. Et si la musique est... La musique est beaucoup, beaucoup plus importante que les paroles pour... L'exemple, c'est Bruno Cocatrix, vous savez, c'est un musicien, avant d'être directeur de music hall, et un jour, il avait une musique depuis longtemps, il ne trouvait pas. Et la musique était bonne. Mais alors, la musique ne suffisait pas. Et pourquoi? Et c'est ça qu'il faut, le mariage. Ça s'appelle... Ça ne s'appelait pas. Et un jour, il a rencontré un parolier qui s'appelle... Comment s'appelle?
Je ne sais pas de qui tu parles.
Clopin.
Ah bah c'est... Dudan.
Elle a dit pas trouver le mot qu'il fallait, sur la syllabe qu'il fallait sur la... Et ça a fait un succès. Ça, c'est un exemple, vous voyez? Donc c'est une histoire de ciseaux, de trucs.
Que ce soit un mariage. Quoi.
Mariage, oui. Le type qui écrit copain avec une autre musique, c'est zéro. Sûrement. Vous comprenez? C'est un métier, quoi, c'est un... Ben, c'est des laboratoires, c'est comme le dentifrice, quoi. Il faut bien que ce soit bien machiné, quoi. Tchac.
Vous avez beaucoup reproché, de... injustement d'ailleurs, de... le fait que Dalida ait chanté avec le temps. C'est-à-dire, c'était une de vos chansons que vous n'avez pas écrit pour elle, que je sache.
Ah, et voilà. Alors là, ouais. En tout cas, je n'ai... Même si je voulais, je n'aurais... Et d'ailleurs, je ne veux pas.
Je sais, vous ne voulez pas interdire à qui que ce soit de chanter non, une de vos chansons.
Parce qu'une chanson, ça se chantait. Vous savez, moi, ma fortune, ma chance, c'est ma voix. À part Catherine Sauvage, qui a tout chanté de moi, et d'ailleurs, je n'aurais pas écrit sans ma voix. Parce que je n'aurais même pas pu connaître Catherine sans ma voix. Je ne serais pas venu à Paris. Et je n'aurais pas écrit de chanson, parce que personne n'aurait... Vous savez, au début, quand j'écrivais... bon, il y a eu une évolution chez moi. Bon, mais il y avait des choses que j'écrivais que je pourrais écrire aujourd'hui. Bon, dans le même esprit, la même chose. Vous savez, c'était difficile. J'arrivais ça quelque part, chez les chanteurs. On me regardait comme un ours, comme un drôle de personnage.
C'était l'époque, ça.
J'étais en 40, entre 44 et 40, et assez loin, 40 et 50, vous comprenez. Et alors, je ne sais pas pourquoi on disait ça, parce que la voix... Je disais que ma voix...
C'est grâce à votre voix,
à voix que j'ai écrit, quoi.
Voilà. Non, mais je parlais de Dalida.
Dalida, oui, alors, de toute façon...
Reproché.
Non, non, on m'a reproché. Oui. Et on m'en fout que je me reproche, que ça fait. Dalida, c'est une chanteuse. Si elle veut chanter une de mes chansons, bravo, personne ne chante mes chansons. Vous comprenez?
Oh.
Et c'était marrant.
Personne ne chante.
Non, attention, je parle des choses depuis... Je sais pas, moi. Vous savez, nous et moi, des interprètes de chansons, il y en a eu, mais il n'y en a pas beaucoup. Je faisais mes chansons. Bon, ça me fait plaisir. D'autre part, j'ai pas le droit. J'appartiens à... Je fais un disque. À partir du moment où je fais un disque, moi et ma voix, il y a une licence obligatoire. C'est-à-dire que quelqu'un a le droit de, même si je ne voulais pas, de prendre ma chanson, mais d'être fidèle au texte, de la musique et des paroles, et de la chanter. C'est tellement vrai. Je vais vous raconter une chanteuse. Il y a des années de ça. Moi, j'avais fait une chanson de la musique sur des paroles de Rudebeuf qui avaient été agencées de façon particulière. C'est-à-dire qu'il y avait un arrangement des paroles. Et l'arrangement des paroles avait été fait en collaboration avec mon ex-femme qui s'appelle Madeleine. Hein? Bon. J'avais mis ça en musique, et puis voilà. Et deux, trois ans après, j'ai un guitariste que je connaissais bien, qui était de mon pays, qui vient à la maison et me dit, tu sais, il y a une telle qui vient de chanter, qui vient d'enregistrer chez Pathé Marconi, la chanson Rudebeuf. Et Rudebeuf, en 1240 ou 1250, a dit, et droite au cul, cambise vente. Bon, on peut tout de même imaginer que on n'a pas changé le mot cul sous prétexte qu'il a... combien? Ça fait beaucoup, ça fait 2, 6, 8, 9, 6, 7 siècles. Ça fait beaucoup, ça. 6 siècles. 7 siècles. Bon, alors j'ai téléphoné, j'ai télégraphié à cette chanteuse en disant « De mon temps, on ne confondait pas encore le cul avec le cœur. De l'autre bout du monde, rue de Boeuf. » Et au téléphone, on ne m'a pas pris le télégramme. Vous savez pourquoi? Parce que dans un télégramme, j'essayais de le faire, vous n'avez pas le droit de mettre un gros mot.
Ah, alors j'ai... C'est trop beau pour être vrai, ça.
Ah, je vous assure.
Ah bon?
Téléphonez un télégramme demain, dites « Je vous emmerde, hein, monsieur, machin. » Monsieur, on ne peut pas vous envoyer ce télégramme. Et ça se comprend aussi un peu, parce qu'un télégramme, c'est important pour un type, il peut le lire. Ça. Bon, et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit à Patrick Marconi, en disant « Voilà, moi je vous écris de la part de Rue de Boeuf, si c'était de ma part, encore je pourrais, bon, laisser tomber, mais je ne peux pas, moi. » Il a dit « C'est pas un type qui a vécu il y a 100 ans, il a tout de même 700 ans quand même. » Et ne sortez pas le disque. Il vaut mieux que vous ne sortez pas le disque. Ben, ils l'ont pas sorti. Et après, une chanteuse, une autre chanteuse, qui l'a enregistré et qui avait dit « Oh, laissez tomber. J'ai tombé voir ce que je vais faire. » Et il y a une fille qui a chanté, qui s'accompagne mal à la guitare. Mais c'était merveilleux, c'était John Baez. Un jour, j'ai reçu un disque, hein, et droit à Tokyo, Cambise de Vente, c'était formidable, vous comprenez. Alors là, je peux interdire, si je veux. Si on... C'est pas le texte. Cela dit, Dalida... Vous savez, à Strasbourg, j'avais une chanson qui a été un succès. Et croyez-moi, un succès, ça se fait pas sur commande. Hein. Mm-hmm. J'avais besoin de chansons en 69... En janvier, j'ai dû faire Bobino, j'avais besoin de deux chansons supplémentaires. Un matin, je m'étais levé, je travaille à la commande, moi, hein, parce que j'ai besoin de trucs. Là, c'était le cas. J'ai fait le texte de L'Idole, d'une chanson qui s'appelle L'Idole, et puis c'est extra. Il y avait un vieux piano en bas, hein, j'ai fait la musique. Bon, comme ça. Je suis allé chanter à Grenoble, j'ai trouvé, à ce moment-là, c'est un arrangeur qui travaillait avec moi, Jean-Michel Defaille, beaucoup de talent. Il était au ski, on ne trouvait pas. Il fallait qu'il fasse l'orchestre. Ça. Enfin, on est arrivé, ben, je chante ça. Gros succès, enfin, gros succès. N'exagérons pas, hein. Ça n'est pas le succès que nous contestions tout à l'heure. Et j'ai chanté à Strasbourg, un an après. Donc en 70, quoi. Un an ou un an et demi après. J'ai chanté la chanson, accompagné par la bande. Et il y a un type qui... Qu'est-ce que c'est, mon frère? Qui m'interrompt. Je m'entends plus ce qu'il dit, il siffle, etc. J'ai dit, je viendrai me voir à l'entracte. Et l'entracte, il va avoir un petit jeune homme de 18 ans, tout en noir, un petit machin rouge, qui vient là, il y a un truc comme ça, il s'assoit dessus, il met les pieds sur la chaise, il croise les jambes, et je dis, eh ben, alors, qu'est-ce qui te plaît pas dans ma chanson? Parce que t'as pas le droit, mais enfin, quand même. Il me dit, je l'adore. Je dis, et alors? Elle est souillée par le peuple. Voilà. Ça aussi, c'est vrai. Il se réclamait l'anarchie. J'ai demandé, tu es anarchiste. Oh, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ça m'est arrivé une autre fois. Je chante plus. Je peux plus chanter. Comme ça n'arrive pas. Vous comprenez que je peux ne pas chanter cet extra, ça n'ajoute rien. Ça ne retire rien. Voilà.
Si demain, je sais pas moi, Sheila, Ringo, Mireille Mathieu vous demandez de réécrire une chanson.
D'accord, mais si vous demandiez si De Gaulle il te demande d'aller faire sa cuisine à la campagne, écoutez.
Non, mais enfin, c'est pas.
Si, c'est pas possible.
C'est idiot quand même, ça, hein? On sait jamais.
Je saurais
non,
pas.
Non, mais moi, je veux dire, dans l'optique, non, je suis sérieux, je veux dire que même dans l'optique commerciale, si vous voulez. Je pense que la personne qui s'occupe de Mireille Mathieu pourrait imaginer que ce serait un excellent argument de vente que Mireille Mathieu ou Sheila ou qui vous voudrait chante une chanson de Léo Ferré écrite par Léo Ferré.
Oui, pour elle. Vraisemblablement.
Plus,
oui.
C'est plus la même chose que tout à l'heure. C'est plus.
Vraisemblablement, oui. Mais j'étais au studio, je sors du studio et je vois Mireille Mathieu qui rentre et qui dit, je l'entends dire à Johnny Stark, ah. Ça, c'est le monsieur qui ne m'aime pas. Alors, je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, bien mignonne, je voulais faire votre métier, bien. Puis voilà. Alors, Tark me dit, vous savez, dans cette histoire, je ne peux rien du tout. Est-ce que vous voulez faire une chanson pour Mireille? Je dis, vous savez, moi, c'est une chanteuse, c'est mon métier, je veux bien faire une chanson, mais elle ne chantera pas. Et j'écris une chanson. Je partais en province, j'ai écrit une chanson. Et je suis allé, je partais en province avec, à chanter à Marseille, je suis allé dans leur bureau d'édition, et je leur chante la chanson. J'ai dit, je veux bien vous la chanter, je vais vous faire voir, parce que je ne veux pas que vous pensiez que moi, je ne vous aime pas où je voulais, c'est parfait, c'est pareil, moi, c'est mon métier. Je vous ai promis, je vous le fais. J'ai dit, je vous dis tout de suite, elle ne la chantera pas. Je lui chante la chanson, ils pleuraient tous les deux. Où est-ce que vous habitez en Italie? Il y a Rome, il y a le disque, la petite passe à l'Olympia en janvier, on fait l'enregistrement, vous, formidable, je dis, moi je pars à Marseille, il faut que j'écrive la musique de ça. J'ai passé 5 jours à Marseille, je suis allé à Marseille, et je me dis, bon, je vais écrire la musique, et puis on va voir. C'est passionnant ce que je vous dis, vous savez, vous allez voir. J'ai un coup de téléphone, le type devait venir en avion chercher la musique, il n'est pas venu, secrétaire. Je téléphone sur son téléphone. Ah, vous savez, c'est pas possible parce que d'abord on me dit il n'y a pas d'avion, quoi, je sais pas quoi. Et puis après on me dit non. L'entourage de Johnny Stark a conseillé qu'il ne fallait pas qu'elle chante ça. C'était la mort des loups. Et j'avais dit si elle chante ça. Oui, et si jamais elle chante ça, il faut qu'elle chante ça. Comme ça, parce qu'elle finit avec un petit loup dans les bras, son petit loup de l'enfance. Et à la fin, vous lui faites chanter ça, à la fin de son tour de chant, et vous lui faites couper la tête. Et elle reste comme ça. Et voilà. Alors, je veux bien.
Elle n'a jamais chanté.
Mais non.
Celle que vous allez chanter.
Et je pense que... Moi, je suis d'après-demain, vous savez. C'est une grosse erreur qu'ils ont fait. Enfin, une grosse erreur. Une erreur qu'ils ont fait. Tous les deux. À ce moment-là, ça n'est plus moi. Ça dépasse mon problème à moi. Moi, quand je fais une chanson, quand elle est chantée par l'autre, ou quand elle est sur un disque, je ne suis plus là, moi. Quelqu'un peut écouter une chanson sans savoir que je m'appelle Léo Ferré, tout ça. Il peut aimer ça, sans même demander qui est-ce qu'il a fait. L'important, c'est que ça lui plaise, c'est que ça lui fasse quelque chose. Et une petite comme ça, chantant une chanson pareille, à ce moment-là, il venait d'être exécuté. Vous croyez que j'aurais eu honte? Je vous prie de croire qu'il n'y a pas question d'argent en ce moment. J'aurais honte. Quel projet énorme sur une affaire pareille. Et de quoi fermer la gueule à tout le monde. Parce que là, vraiment, on ne peut pas me soupçonner de faire du commerce, enfin, quoi. Alors j'ai laissé ça, bon. Et puis... J'ai écrit ça, je l'ai imprimé dans un truc que j'ai, et puis j'ai fait la musique il n'y a pas longtemps. J'ai orchestré, puis je chante demain.
Une belle histoire. C'est un peu un retour aux sources, en fait, puisque vous me parlez de l'ouverture de Coriolan, de concerto.
Un aller, mon vieux, un aller.
Vous avez commencé, vous avez eu une formation très classique,
non? Non, pas formation, moi j'ai tout appris tout seul.
Je pensais que vous aviez suivi les cours d'un élève de Scriabine, j'ai lu ça dans une biographie.
Oui, alors, non, j'ai connu un élève de Scriabine, qui était critique musical aussi, en Russie, qui s'appelait, c'est bien au courant. Hein. Ah oui, vous avez été dans les archives d'un journal.
Non, Léonide, pas du tout, non.
Je croyais que vous me suiviez avec passion depuis longtemps.
Oui, aussi, mais en l'occurrence...
Léonide Sabaniev. Alors, c'est un type russe, très grand, merveilleux, très 65 ans, très bien, trip. Il me jouait le flûte de Mozart, il faisait voir, il réduisait le piano, il m'a appris des choses. Mais j'étais 7 ou 8 fois chez ce type, quoi. Et puis, il faisait la peine, ce type, parce qu'il avait des trucs d'orchestre aussi grands que ça. Donc, ça veut dire que c'est du boulot, hein, parce qu'il y a 40 lignes, 38 lignes, il faut écrire tout ça. Moi. Il y avait des trucs d'orchestre comme ça. tout noir. C'est un illustre inconnu. Il est mort, on ne connaîtra jamais. J'ai dit, toi, mon vieux, qu'est-ce qui doit être malheureux? Et ça me faisait de la peine de le voir, ce type. Et pourtant, il était gentil, vieux. Hein. Et j'ai compris, je ne lui ai rien demandé sur sa musique, parce qu'il n'y avait rien à lui demander. Et je regardais ça. Je crois que je lui ai demandé un jour, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est toute œuvre, chorale, machin, tout ça. Et voilà. Oui, alors comme
non,
ça...
C'est abusif de dire que... Il a été votre maître, si vous l'avez vu.
Non, moi, j'ai pas eu de maître. C'est... Pourquoi? Parce que ça s'est pas trouvé, parce que... Tu vois. Et parce que j'avais pas... J'étais pas aidé non plus. Quand j'ai eu 14 ans, un jour, j'avais dit à mon père, je vais aller au conservatoire. Et mon père, il me dit, tu veux au conservatoire? T'es fou? C'est pas question que j'aille, hein. La musique ne nourrit pas son homme, cette fameuse formule, n'est-ce pas? Alors j'ai l'habitude de dire, je prends un temps, parce que je suis un acteur, un cabot aussi. Et je dis, si vous saviez, monsieur, combien j'ai nourri de personnes depuis que je fais de la musique. Eh oui, et ça c'est la victoire sur moi, parce que j'aurais jamais prévu ça. Parce que l'usine, ça marche. J'y peux rien. Ça a été long. Alors je pense à mon père. Je comprenais pas, quoi. Mais j'avais compris, mon père.
C'était la vie de bohémien, quoi.
Oui, oui, c'est le bohème, le vagabond, le... Le coup des cheveux, c'était vrai, vous savez. Le coup des cheveux que j'ai dit au type, là.
Il a fallu faire Sciences Po avant.
Oui, alors, Sciences Po, pourquoi j'ai fait Sciences Po? Sciences Po, c'était extraordinaire. Oh, c'était formidable. J'ai fait Sciences Po, je m'en rappelle plus pourquoi. Parce que faisais le droit, parce que je me cachais, comme l'autruche, quoi. J'ai fait effectivement l'endroit mal, quoi. Sciences Po, j'ai été diplômé à la section administrative parce que j'ai sauté 4 ans et parce qu'il y a eu la guerre et parce qu'ils m'ont fait passer parce qu'il fallait finir, quoi. Et l'autruche, je me cachais. Je savais pas écrire la musique, quoi. J'avais un peu le solfège, je savais rien. Et je voulais pas parce que j'étais persuadé qu'il fallait pas, quoi. Ouais, tellement.
J'ai fini par intérioriser les recommandations paternelles.
Mais intériorisé avec pas d'une façon, je veux pas moi intérioriser des choses que je veux faire, mais c'était encore pire que ça. Oui, c'était l'oubli des choses. Non, c'est pas possible, je peux pas. Puis les autres, écoute ça, Léo, comment peux-tu écrire de la musique après ces gens-là? Vous comprenez? C'est difficile, la vie d'artiste.